France Culture.
20 ans, je dirais que on est encore dans, c'est la transition, encore une fois, entre l'adolescence et le côté adulte. La question que je me pose, c'est, bah, du coup, à quel âge je serai adulte? Des fois, on me dit, mais Aïna, t'as 20 ans, du coup, t'es déjà une adulte, mais je ressens pas le fait d'être une adulte. Du coup, bah, je me demande bien quand est-ce que ça va arriver.
C'est un âge entre la fin de l'adolescence et le début de l'adulte, je pense, surtout quand on a fait des études assez longues, parce que on commence à construire sa vie d'adulte alors qu'on a l'impression qu'on a fini le lycée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on est encore jeune adulte, on le sent, même comment la société nous regarde, souvent on tombe encore sous le coup des réductions étudiantes, jeunes, etc. Mais on sent qu'on bascule quand même dans le monde des adultes.
Les enfants du nouveau millénaire, épisode 2, inventer l'amour. Avoir la vingtaine en 2025, c'est bien souvent être entre deux âges. Ils nous saluent d'une poignée de main ferme comme celle d'un vétéran, on se retourne, on les voit s'amuser comme une portée de chiot. Le combo sac à main Air Force révèle tout de cette contradiction. Être entre deux mondes. Celui des adolescents, celui des adultes. Il y a la peur d'être vieux avant d'avoir été jeune et d'être vieux comme les vieux. Il y a de la fragilité. Il y a aussi de la beauté à voir leur existence en train de se vertébrer. Parfois, on sent leurs colonnes se plier sous le poids de ceux qui les ont précédés. Aspirent-ils à renouer avec les relations du monde d'avant ? Ils observent les divorces, les doubles journées, la brutalité des hommes. Ils découvrent que les relations amoureuses qu'on leur a présentées comme un conte de fées sont rarement éternelles et égalitaires. La sphère privée, qui pourrait être un lieu de repli dans un monde incertain, est aussi un espace de désamour, de liens forcés, de non-dits. Alors il y a ceux, enfin surtout celles, qui disent haut et fort qu'elles ne veulent plus de ces vies-là. Ces filles ne veulent plus que leurs lèvres soient scellées. Elles mettent des mots, on invente si nécessaire, sur leurs unions, les genres, les orientations sexuelles. Elles acceptent de s'aventurer dans de nouveaux chemins et d'en assumer les conséquences. Elles élargissent le champ des possibles. Elles éclairent les zones d'ombre, elles mettent un coup de pied dans la fourmilière. Elles sont parfois impitoyables. En même temps, il n'y a rien de pire qu'un adulte qui croit qu'il sait. Il y a aussi toutes celles et ceux qui, à bas bruit, continuent le combat de leurs ancêtres, pour s'aimer autrement. Qu'invente cette génération en matière d'amour ? Des liens qui s'affranchissent du patriarcat, ça ressemble à quoi ? Quelles sont les amitiés, les relations amoureuses, les parentalités rêvées ? Qu'est-ce qu'on leur propose pour se projeter ? On retrouve Aïna de la bande de Créteil et Agathe, l'étudiante en droit notarial. Les filles de la colocation, Maëva, la jeune maman d'Arc-la-Bataille. Et sur leur banc, les Cinquos racluros de Créteil qui se servent de boussole.
Aïna est née en 2004. Ozone marque l'été avec son tube Dragostea Ditei. Agathe est née en 2001. Kubrick imagine, à propos de cette année, qu'un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire. À son bord, le docteur Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d'un monolithe noir qui émet d'étranges signaux vers Jupiter. Loua est née en 2002. Jean-Marie Le Pen remporte le premier tour des présidentielles. Maëva est née en 2000. Le quatrième volume de la saga Harry Potter sort en France. Iliès est née en 2003. Elephant de Gus Van Sant remporte la Palme d'Or.
Pour l'instant, je ne suis pas rentré dans l'espèce de trou noir entre ceux qui commencent à avoir une vie de famille, commencent à avoir quelqu'un depuis à peu près longtemps, projet de mariage, projet d'enfant, etc. Et ceux qui viennent de sortir de la licence et qui ont encore l'esprit du lycée, de venez, on sort et tout. Non, ma classe d'âge, je dirais que nous par exemple, on n'a pas changé. On part toujours des mêmes trucs, on fait toujours les mêmes choses. Encore hier, pour mon anniversaire, on a fait une soirée, on a fini sur le banc, comme d'habitude, on a fini jusqu'à, je sais pas, 3h du matin. Et puis, non, ma classe d'âge, en règle générale, je dirais qu'on n'est pas encore tombé dans on a trop d'obligations. On va y arriver, parce qu'au bout d'un moment, on aura tous des tâches difficiles, qui nous prendront du temps. Mais là, on a encore l'esprit d'il y a 3-4 ans, de la sortie du lycée et tout. On est encore dans ça, je dirais.
Irène Théry, sociologue.
Eh bien, moi qui ai inventé pas mal de mots qui sont passés dans l'usage courant, en effet, famille recomposée, des mariages, etc. Peut-être en quelques d'autres, viol d'opportunité pour le débat récent. Eh bien, je n'ai pas de mots pour cet âge-là. Ce sont des jeunes adultes. Voilà. Je ne vois pas comment on pourrait définir mieux cet âge qui est effectivement nouveau, hein. Puisqu'entre 20 et 30 ans, en quelque sorte, on n'est pas encore sommé par ses parents ou par la société de s'installer, de se marier ou de faire des enfants ou d'entrer dans un couple stable. Mais en même temps, tout le monde considère tout à fait normal qu'on ait une vie amoureuse, une vie sexuelle, qu'on expérimente, que les ruptures ne soient pas si graves que ça. Et donc, c'est un âge qui n'existait pas autrefois. Donc, les jeunes adultes, ça n'existait pas. On était jeune et puis on était adulte, mais on n'était pas un jeune adulte. La distinction entre jeunes adultes et la vie adulte, c'est effectivement tout un ensemble de choses, c'est-à-dire l'entrée dans une profession. Alors elle peut être plus précoce, bien sûr, ça va dépendre des catégories sociales, mais c'est aussi un projet familial, une installation amoureuse, une maison partagée, voilà. C'est ça les critères.
Je suis en couple depuis bientôt 7 ans. Avec Sofiane.
Agathe.
On a le même âge, il est né en 2001 aussi, le 16 janvier 2001. Lui, il travaille chez Vinci Énergie en tant que technicien bureau d'études, donc c'est ceux qui font les plans des installations électriques, etc., qui sont en contact avec les maîtres d'œuvre, le chantier. On s'est rencontrés par le biais d'amis communs parce qu'il vient aussi de Clermont-Ferrand. Il a déménagé un an avant moi à Bordeaux, donc c'est vrai que c'est un peu le hasard. Et ben depuis, on a vécu... pas mal de notre relation chacun chez nos parents. Lui, il a fait un bac plus 3, donc au bout des 3 ans, il a pris un appartement. J'ai vécu de plus en plus chez lui pendant les 2 ans de mon master, jusqu'à complètement vivre chez lui. Et après, on a pris cet appartement à la fin de mon master. On s'est rencontrés. Lui, il allait avoir 17 ans dans une semaine. Et moi, je venais d'avoir 16 ans. Donc, on s'est rencontrés hyper jeunes. Mais au final, ça a bien matché. On est toujours ensemble maintenant. Et il y a beaucoup de gens, ouais, qui nous disent ça, que c'est jeune. Mais bon. Je me sens pas piégée dans la relation, tout va bien, je suis très heureuse. Enfin, là, on s'est paxé avec Sofiane en septembre. Du coup, c'est déjà un beau geste d'engagement. J'ai pas besoin d'avoir la bague au doigt tout de suite. Mais bon, je sais qu'il faudra mieux se marier pour les projets d'acheter une maison, d'avoir des enfants, etc. C'est quand même beaucoup plus protecteur. Mais c'est vrai que ça sera pas tout de suite.
Je sais pas si... Déjà, je pense que je me marierai pas.
Ilyes.
J'en ai jamais parlé explicitement à mes grands-parents ou à... Bon, mes parents, ils le savent, mais... D'ailleurs, je pense qu'ils sont d'accord avec ça. Moi, mes parents sont séparés depuis l'année 2006, donc depuis que j'ai 3 ans, donc j'ai 2 familles. Après, j'en ai fait beaucoup des mariages, hein. J'ai fait des mariages antillais, des mariages catholiques traditionnels de mairie, après l'église, etc. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je préfère payer un bon voyage qu'un petit mariage. Parce que le mariage à 10 000 euros la journée pour finir à la salle des fêtes Léo Lagrange de Gennevilliers, c'est pas pour moi. C'est sympa le traiteur qui livre à 3h du mat, mais c'est sympa.
J'ai rencontré Kevin il y a 8 ans. Comme ça, par hasard, il m'a tapé dans l'œil, comme ça. Et voilà, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et on est fiancés.
Maëva.
On était toujours plein de jeunes à traîner un peu dans les rues, on va dire. Et du coup, j'étais tout le temps avec lui et ça s'est fait un peu du jour au lendemain. On était un peu comme des copains au début. Et ça s'est fini, qu'on s'est fait des bisous et puis voilà. Et le mariage, c'est un peu le rêve de toutes les femmes, on va dire. La robe de princesse... puis de porter son nom et le nom de mes filles, surtout, dans un premier temps. Mais j'ai un peu plus de projets avant le mariage quand même, mais ça sera par la suite. Ouais, déjà, dans un premier temps, j'aimerais acheter ma maison, déjà.
Il faut savoir que pendant des siècles et des siècles, et ça dure en fait jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'aux années 1970 et suivantes, la famille était fondée sur le mariage. Une femme et son enfant hors mariage n'étaient pas considérés comme une famille, par exemple. Et c'était la stabilité du mariage qui assurait la stabilité de la famille. Et donc, et une famille idéalement très stable, avec un rôle pour l'homme, un rôle pour la femme, et des droits différents pour le père et la mère.
Ils sentaient le vin, ils sentaient l'alcool, mais il fallait subir, sinon c'était toute la nuit qu'ils faisaient des comédies, des sérénades. Alors pour que les enfants puissent être tranquilles et pour pouvoir être tranquilles, eh bien, il fallait subir. Moi, on me disait, mon mari me disait, enfin mes maris me disaient, toi de toute façon tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas le droit à la parole, c'est moi le maître ici, c'est moi qui dois prendre des décisions. Jamais je n'avais droit à la parole.
Vous avez été mariée combien de fois ?
Trois fois.
C'était la même chose les trois fois ?
Les trois fois, c'était la même chose.
Archivina, 1983.
Donc, ce modèle matrimonial de la famille a commencé à être mis en cause à la fin du XXe siècle, dans le dernier tiers du XXe siècle. C'est ce que j'ai appelé le démariage. C'est le fait que se marier ou pas est devenu une question de conscience personnelle. Ça n'était plus une obligation sociale impérative qui faisait que si vous n'étiez pas marié, vous étiez mis au banc de la société, ou votre enfant était un bâtard, par exemple, qui n'aurait pas les droits d'un autre enfant et serait montré du doigt. Eh bien, c'est l'ensemble de la famille qu'il faut rebâtir, qu'on va rebâtir. Alors, qu'est-ce qu'on va voir à partir des années 2000 ? D'abord, juste avant les années 2000, on a évidemment un événement très important qui est la création du PACS. En fait, on met fin à des siècles et des siècles pendant lesquels un couple était nécessairement formé d'un homme et d'une femme. Donc ça, c'est un moment très important. Alors, qui au départ ne va concerner que le couple, et puis progressivement va s'intégrer à des changements qui concernent la filiation. Le grand moment important, ça a été le mariage pour tous, évidemment.
Nous allons oser poser des mots sur des sentiments et sur des comportements. Nous allons oser parler de mensonges à l'occasion de cette campagne de panique, de pseudo-suppression des mots de père et de mère dans le code civil et dans le livret de famille.
Christiane Taubira, 2013.
Le grand débat a porté en fait sur la filiation. Parce que dans le projet de loi, il n'y avait pas simplement le fait qu'un couple puisse aller en mairie et se marier, il y avait que ce couple pourrait adopter un enfant. Et donc, avec le mariage pour tous, il y avait aussi la filiation pour tous. Au moins une partie, l'adoption. Alors ça, ça a été un grand changement qui a suscité énormément de peurs, de fantasmes, etc.
Et les couples homosexuels pourront adopter dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels, au nom d'un prétendu droit à l'enfant.
S'il vous plaît.
Vous refusez des droits à des enfants que vous choisissez de ne pas voir.
Je rencontre les filles de la coloc grâce à Andrea, qui faisait son service civique dans la radio associative dans laquelle j'ai été bénévole pendant presque 10 ans. Elles m'envoient leur numéro par texto et me précisent « Demande bien leur pronom !» Délicate attention qui me permettra d'éviter de mettre les pieds dans le plat à la première seconde. Pour Elisa, c'est elle. Et pour Loi, c'est Yel. Ou elle. Les deux lui vont, mais elle préfère Yel. Yel se retrouve bien dans ce pronom, sa forme de neutralité, son caractère non-binaire.
L'époque change, et les mots changent. Yel, contraction d'il et d'elle, est un pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Exemple, Yel se définit comme non-binaire, peut-on lire sur le site du Robert qui a ajouté ce mot en 2021. D'autres expressions n'ont pas encore leur place dans le bottin, mais apparaissent comme « chercheuse » ou encore « copaine ».
louant un carré brun avec des barrettes qui tiennent deux petites tresses. Yael a un chouchou jaune et un chouchou rouge. Le jaune est à gauche parce qu'elle a mis une barrette jaune à gauche et parce qu'elle a ses piercings dorés à gauche. Yael aimerait surtout que les choses soient autrement. Le sexisme la débecte, le capitalisme, ça n'est pas mieux. Yael ne dit pas cela pour se faire mousser. Yael voit le ravage des inégalités. Sur Yael, sur ses amis, sur sa mère. Yael se définit comme misandre. Selon le dictionnaire, la misandre est une femme qui a de la haine ou du mépris pour les hommes. Mais peut-être que tout cela n'est pas à prendre au pied de la lettre et qu'il faut plutôt y voir la haine et le mépris du comportement patriarcal.
La loi pour le mariage pour tous, en vrai, moi je m'en rappelle pas, je crois. Enfin, dans le sens, sur le moment, j'ai dû le voir à la télé avec ma mère. Mais déjà, chez mon père, j'avais pas la télé. Donc, si ça se trouve, c'est tombé une semaine où j'avais pas la télé chez mon père et juste, j'ai appris la semaine d'après.
J'ai appris.
je sais pas. Honnêtement, je me rappelle pas de l'annonce. Ben, c'est pareil, c'est comme MeToo. J'ai l'impression que c'est après des lois qui m'ont impacté plus tard et où je me... Et où, du coup, je me dis qu'il faut se battre pour tel ou tel droit et où je vais me renseigner par après, de manière rétroactive. Ah, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Moi, je me rappelle pas exactement. J'avais 11 ans. Mais en vrai, je me rappelle... Enfin, j'ai le souvenir d'un avant-après un peu dans ma tête de comment je concevais les choses. Parce que moi, j'ai toujours su que j'étais pas hétéro, que j'ai toujours été amoureuse des filles. Donc... J'ai toujours su que, enfin, j'aimais pas que les garçons et que j'allais pas être une personne hétéro. Donc en vrai, ça m'avait un peu touchée à l'époque, mais j'étais jeune, j'avais 11 ans. Ma mère, elle était tellement contente. Genre, elle était tellement. Mais enfin, on laisse les gens tranquilles, quoi. Mince. Enfin, ça se fait pas et tout. Et en fait, il y a eu tellement, je sais pas, un truc avec ça qui s'est grave émancipé. Puis ma maman, elle a beaucoup d'amis homo, beaucoup d'hommes gays autour d'elle. Donc c'était vraiment la fête, quoi. Je me rappelle pas du monde d'avant, du coup. Comme toi, Elisa, c'est normal, en fait. Enfin, c'est ouf. Et en fait, maintenant que j'ai grandi, j'ai en mode, c'est ouf que c'est si tard. Enfin, c'est comme les femmes qui ont pu voter, c'est si tard.
D'après moi, l'homophobie existe toujours. Et même aujourd'hui, il y a aussi de la transphobie. Que toutes les personnes queer et en minorité, que ce soit de genre, de classe, de race, etc., ont commencé à se révolter. Donc forcément, derrière, il y a des personnes qui vont à l'encontre de ça. Enfin, bien sûr que ça existe toujours. Il y a tellement de personnes qui se font casser la gueule ou qui se retrouvent dans des guet-apens ou à qui on harcèle, etc. Enfin, moi, quand j'étais au collège, je sortais avec une fille et j'ai pas osé le dire à mes potes, alors qu'en vrai, genre, finalement, ils s'en fichaient. Ils ont su quand c'était fini. Ils étaient en mode « Ah, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ?» J'étais en mode, bah, je sais pas, j'avais peur que vous me jugiez. Ils étaient en mode « Mais non, t'aurais jamais jugé sur ça. » Mais il y a des personnes qui vivent très mal ça et qui le vivent avec leur famille. Il y a des ruptures avec des gens qui ont des ruptures avec leur famille, la famille qui n'accepte pas, des familles qui sont dans des confessions religieuses. Parfois aussi, ça n'est pas forcément toujours lié, mais ça peut arriver. Donc, bien sûr que ça existe toujours.
Pour moi, vu comment les choses avancent, je me vois pas faire un enfant. Premièrement parce qu'on est bientôt 8 milliards, voire on les a atteints. Bon, on est entre 7 000 et 8 milliards. 7 et 8 milliards. C'est tellement beaucoup. Donc bien sûr, enfin, je suis pas là en train de... J'ai pas envie d'avoir un discours hyper négatif. C'est pas du tout le but. Mais j'essaye aussi d'être consciente. Donc je me vois mal arriver et me dire « Allez, je vais faire un enfant, let's go, on va le faire naître dans un monde où on respire de la pollution et on mange plein d'OGM. » Enfin, donc c'est trop horrible, comme monde.
Je pense que c'est un peu égoïste, hein, parce que je crois que dans la vie d'un couple, il faut au moins un enfant. Ça donne un but dans la vie.
Je trouve qu'elles ont grand tort, parce qu'il est naturel pour une femme d'avoir un enfant, c'est tout à fait naturel.
Elles ont raison. Ben personnellement, j'en veux pas. Et parce que j'estime qu'il. Ça donne trop de soucis. On a suffisamment de problèmes pour vivre soi-même.
Elle a pas envie. Elle pense à rien. Elle a rien dans sa petite tête.
Je trouve qu'elle gâche une grosse partie de son existence et la chose la plus importante de sa tâche dans sa vie.
Archivina, 1976.
Alors il y a deux types de familles,
selon moi. Il y a la famille qu'on choisit et la famille qu'on ne choisit pas. Parce que du coup, un jour on est, on a une famille. On a un maman, une papa, des frères, des sœurs. Et on vit avec eux et c'est ce qui fait qu'on commence à aller, enfin, qu'on leur porte une certaine affection ou autre. Mais il y a la famille qu'on choisit pas aussi des fois. C'est les personnes qu'on va rencontrer au-delà du coup de cet environnement qu'on a finalement pas forcément choisi. Et on peut aussi leur porter une affection qui, selon moi, des fois peut égaler l'affection qu'on porte à des membres de notre famille.
Aïna.
Les membres de cette famille idéale, ça serait un papa, deux garçons et deux filles. Voilà. C'est nombreux, mais c'est gérable. Alors, ma famille, j'ai un arbre généalogique assez, assez complexe. Du coup, je vais commencer avec ma maman. Ma maman qui a eu deux filles avant moi, de son ancien mariage. Donc, j'ai deux grandes sœurs qui s'appellent Elsa et Raissa. Et ensuite, il y a du côté de mon papa qui a eu de nombreux mariages avant ma maman. Donc, j'ai une grande sœur qui vit aux Comores. J'ai une deuxième grande sœur qui vit à Marseille. J'ai trois grands frères. J'en ai deux qui vivent en région parisienne et un qui vit à Narbonne. Et ensuite, il y a eu du coup le mariage de mon père et de ma mère, où j'ai été la première à sortir. Et après, j'ai une petite sœur et deux petits frères.
Je suis fils unique. Et ça, c'est unique de le dire. Ça fait plaisir. C'est sympa de dire qu'on est fils unique. Ça, je trouve que moi je le vois du côté positif. Parce que souvent on parle à des gens, ils sont un peu dépités. Oh, mais t'as pas de frère, t'as pas de sœur, ça a dû être dur la vie. Franchement, il y a plus à plaindre quand même.
Ilyes.
J'ai pas d'idée sur le nombre d'enfants que je voudrais avoir. Je pourrais même pas dire si j'ai envie que mon propre fils soit fils unique comme moi je l'ai été. Je sais pas. Mais moi je pense que dans ma vie j'aurais besoin de connaître l'expérience d'avoir un enfant. Et puis d'avoir un autre Jamlaoui, un Ilyes Junior peut-être, j'en sais rien.
À long terme, peut-être un enfant, deux si j'ai vraiment la force.
Agathe.
Je pense que je serai toujours avec Sofiane, en tout cas c'est le projet, on se l'est dit tous les deux.
Pourquoi est-ce que tu veux des enfants ?
C'est un rapport en fait qui est tellement dénué des sentiments que tu peux avoir avec d'autres adultes, tu vois. Quand tu parles à un enfant de 2 ans et demi, t'as pas les mêmes sentiments qui peuvent venir parasiter une discussion d'égal à égal, tu vois, de même âge. Et c'est vraiment joie de vivre que les enfants peuvent dégager. Moi, je trouve ça hyper mignon, quoi. C'est trop mignon. Et je trouve que j'arrive assez bien à connecter, quoi.
J'ai eu ma première fille, Thaïs, à 19 ans. Et j'ai eu Talia à 20 ans.
Maëva.
J'avais envie de Thaïs déjà bien avant. Je ne suis pas tombée enceinte tout de suite, au bout d'un an et demi. J'ai toujours voulu des enfants. Bon, avec la... Là, j'ai eu ma deuxième, ce n'était pas prévu, 15 mois après. Mais sinon, en aucun cas, je regrette mes enfants. C'est dans le schéma d'une vie, en fait, d'avoir des enfants, une maison, de se marier, d'être heureux, de partir en vacances... d'être heureux, d'être unis en fait. Alors mon conjoint, il voulait pas des enfants aussi tôt, mais après par amour on cède, hein. Il regrette pas aujourd'hui. Bon, c'est sûr, on en veut plus d'autres, mais il voulait attendre un petit peu et finalement ça l'a fait. Ça s'est fait à deux quand même la décision. Je veux bien avoir des enfants, mais quand même c'est important d'avoir une décision à deux. Moi je me dis que plus tard on pourra être on pourra être avec eux et je trouve que quand on en fait trop tard, après, il faut penser au plus tard. Parce que plus tard, si j'ai 60, 70 ans et que ma fille en a 10, enfin, je trouve que c'est pas trop cool, quoi.
Quand on a une espérance de vie plus longue, c'est qu'on est plus jeune à 80 ans, à 70 ans, à 60 ans, à 50 ans, mais aussi à 40, à 30. Donc tout le calendrier biographique se redéploie. De là aussi le fait que le moment d'entrer dans ce qu'on va appeler la vie adulte, la construction d'une famille ou en tout cas l'installation, le désir d'acquérir une maison, etc. Tout ça s'est repoussé à la trentaine, ce qui est assez logique.
En fait, pour moi, le couple, aujourd'hui, tu te mets en couple avec la personne si ça apporte un plus à ta vie. Enfin, j'attends de mon compagnon que on ne doit pas se subir. En fait, je détesterais qu'il me subisse ou que je le subisse, en fait, dans ma vie. Et ce que j'attends de lui, c'est qu'on soit toujours l'un pour l'autre un plus, qu'on ait envie de nous avoir dans notre vie parce que ça nous fait plaisir, en fait. Et je pense que, bah, du coup, ça passe par des trucs tout bêtes dans la vie de tous les jours. La maison, elle est à nous deux. Donc, on fait tous les deux les tâches ménagères. Je parle même pas de partage des tâches. Enfin, c'est un partage des tâches, mais c'est juste faire les tâches parce que c'est chez toi, en fait. T'as pas besoin de parler de partage. Enfin, tu vis dans la maison, tu vois que le panier à linge est plein. Tu fais une machine, quoi. Enfin, donc ça, c'est au niveau de la maison. Et après, dans la vie de tous les jours, ben, ce qu'il fait aujourd'hui déjà, c'est mon premier support, c'est la personne à qui je me confie le plus. Aujourd'hui, c'est ma famille, Sofiane. Ça me fait un peu pleurer parce que... Ça m'émeut parce que... On se rend compte qu'on est vraiment heureux, quoi. Après, je me dis ça, en fait, même quand je parle avec mes copines, tu vois, qui n'ont pas de copains et tout. Et je me dis, mais la barre est tellement basse quand elles rencontrent un mec, en fait. Elles acceptent des trucs, mais je me dis, mais comment c'est possible, en fait Et je me rends compte que vraiment, si je suis sur le marché des célibataires, mais je vais jamais me remettre avec un mec, c'est pas possible. Enfin, quand je vois toutes leurs expériences sur les applis, même les mecs qu'elles rencontrent comme ça dans la rue, quoi, ça fait pas du tout envie.
Moi, mon père, il faisait rien. Voilà. Il faut se le dire, si tu m'entends, voilà. Mais il faisait rien, enfin, rien. Il faisait vraiment pas grand-chose, le strict minimum, et encore, mais c'est ma mère qui faisait tout. Et je pense que c'est vraiment la génération d'avant. Les femmes, bon, je sais qu'il y a des exceptions, mais il y a beaucoup de femmes à qui j'ai parlé. Et c'est toujours les femmes qui faisaient les couches des enfants, l'école, les devoirs, le manger, le ménage. Enfin, c'est comme ça.
Et toi, t'accepterais ça aujourd'hui ?
Non, j'accepterais pas du tout. Parce que les tâches, c'est à deux. Je vois pas pourquoi moi, je laverais son linge sale et lui, il laverait pas le mien. Je sais que j'entends des anciens toujours qui disent, et les entendre parler et dire t'aides ta femme, nous dans le temps on faisait pas ça, c'est la femme qui fait tout, nous on va travailler, puis la femme reste à la maison. Mais non, c'est pas ça la vie, ça a changé la vie, faut pas se fier à il y a 30 ans, 40 ans. Et je pense qu'ils restent souvent, les anciens ils restent souvent à avant, et ils ont du mal à évoluer en fait. Et je pense que ça les arrange aussi, parce que certains. À l'heure actuelle, qui font rien encore à la maison, je pense que ça les arrange bien avec leur femme.
Parfois, les idées avancent plus vite que les faits. Janvier 2024, rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Selon le HCE, les stéréotypes persistent, y compris chez les jeunes. Le Haut Conseil rappelle que l'assignation des femmes à la sphère domestique et au rôle maternel gagne du terrain. Le HCE observe un retour aux valeurs traditionnelles, autant chez les hommes que chez les femmes. Une opinion en hausse de 7 points dans la catégorie des 24-35 ans par rapport à 2023.
Un mouvement qui a même un nom. La tendance tradwife vient des États-Unis et a essaimé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. On y voit des femmes qui vendent dans des vidéos le modèle des années 50. Elles s'occupent du ménage, de la cuisine et des enfants, et y louent la soumission à leur mari.
Côté hommes, plus de 50% de cette catégorie sont convaincus que l'on s'acharne sur eux. 59% sont persuadés qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste. Ils considèrent donc qu'il est aujourd'hui plus difficile d'être un homme qu'une femme.
Au-delà de ces chiffres, une vague de fond remodèle lentement et de façon non linéaire, avec des retours de bâton, ce que l'on attend d'une vie de couple. Irène Théry, sociologue.
Dans la conscience générale, avec, je pense, principalement les progrès de l'égalité des sexes, plus les rapports sont égalitaires, plus la femme devient une véritable interlocutrice de l'homme. Je pense que c'est le mot important. L'égalité, c'est pas seulement plus de droits, c'est quand les femmes deviennent de véritables interlocutrices dont la voix compte. Ça peut être dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie privée, dans l'intimité sexuelle, que la voix compte. Et donc, quand la voix compte, eh bien, le couple devient un duo. On va admettre que, d'abord, il n'y a pas de différence de fond entre un couple duo de même sexe ou un couple duo de sexe différent. Le risque majeur maintenant, ça n'est plus de rester dans le joug conjugal, comme on disait autrefois. Aujourd'hui, le risque s'est inversé. C'est de s'entendre dire un beau matin, je m'en vais. On peut se dire que les expérimentations de cet nouvel âge de la vie des jeunes adultes sont peut-être une façon de répondre à ce risque de la séparation.
Moi, j'ai grandi avec une maman qui est célibataire, qui a élevé ses deux enfants toute seule. J'ai connu mon père, hein, mais en vrai, j'ai vraiment grandi avec ma maman et c'est ma maman qui nous a fait tous les deux. En plus, on n'a pas le même père avec mon frère, donc vraiment, notre maman, c'est notre pilier, quoi. Enfin, c'est notre figure parentale. Et ma mère, elle est hyper tolérante. Enfin, elle sait que je joue avec des filles, elle s'en fiche. Enfin, ça la regarde pas et elle est grave OK avec ça. Et en vrai, elle m'a toujours éduquée et élevée en disant « Faut que tu sois indépendante, faut que t'aies jamais besoin de personne, encore moins d'un homme. » Ma maman, je l'ai toujours entendu dire « Je veux pas d'homme à la maison. » Pas pour moi, enfin pour elle, quoi. Elle veut pas de... Si elle a un copain, elle veut pas qu'il vive à la maison, etc. J'ai un peu l'impression de juste reproduire ce que j'ai connu, quoi. Mais à ma manière aussi, en l'adaptant avec moi-même.
Je laisse les choses venir. Si je trouve quelqu'un, bah, je trouve quelqu'un. Si j'ai des enfants, bah, j'ai des enfants. Et puis.
Audric.
J'ai pas envie de tout programmer ou surtout de me mettre la pression, en fait. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie, même ma maison, si je l'ai à 30 ans, si je l'ai à 35 ans, si je l'ai à 40 ans, même si j'ai pas de maison, bah, j'ai pas de maison. C'est pas grave, j'aurai un appartement toute ma vie, c'est pas grave. Si au pire, je peux voyager et me réaliser autrement, bah, je le fais autrement. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix dans la vie, je pense. Chacun vit sa vie comme il a envie de la vivre. Et voilà, avoir quelqu'un et des enfants, pour moi, c'est pas l'objectif final. Voilà, c'est... Pourquoi pas ?
Je suis pas fermée à avoir une vie conventionnelle à deux. Moi, actuellement, je me considère encore comme hétérosexuelle, donc je suis pas fermée à l'idée un jour de vivre avec une personne en couple sur le long terme. Mais c'est pas non plus un idéal pour moi si je reste célibataire. En fait, je vois plus les choses comme du flux. Je me vois pas figée plus tard avec une famille, avec un cercle en particulier. Je pense que je serais amenée à, comme maintenant, tomber amoureuse d'une personne, peut-être me séparer, retomber amoureuse d'une autre personne. Donc je pense juste qu'il y aura différents cycles dans ma vie où je construirai mon cocon, mais qui sera peut-être voué à changer.
En fait, je m'imaginerais trop bien fonder un foyer avec un ou une amie. Genre avoir une relation qui n'est pas forcément amoureuse ou qui n'est pas forcément intime sous un aspect romantique avec quelqu'un. Peut-être genre une famille un peu... on adopte ensemble ou genre... on a des enfants ensemble, je sais pas, par PMA, enfin tu vois, genre un truc, parce que j'ai l'impression que c'est tellement, il y a tellement genre le matériel du couple ou de la famille et genre l'intimité et l'émotionnel d'une famille, et que des fois, on a tendance à genre vouloir lier les deux forcément, et moi je crois que je suis pas super à l'aise avec cette idée-là, parce que j'ai l'impression qu'il y en a toujours un qui prend le pas sur l'autre, ou qui se casse la gueule et l'autre, il continue à avancer et du coup, ça marche pas trop. Je sais pas si je me vois dans un espèce de schéma très hétérosexuel, patriarcal. Je sais pas si... Je pense que ça peut convenir à énormément de gens. Genre, disclaimer, j'ai aucun... Enfin, je suis trop heureuse quand j'ai des amis qui vivent ce genre de relation et qui sont bien. Et ça m'arrive aussi de vivre ce genre de relation, faut pas croire, tu vois. Mais je sais pas si, genre, si je devais fonder vraiment foyer avec quelqu'un, si je me sentirais à l'aise... d'être dans des dynamiques comme ça. Je crois que ça me ferait trop compliqué. Alors que, tu vois, si je me dis, oh, c'est peut-être un peu utopique, mais tu vois, si j'habite avec des amis, genre on a des enfants et genre on les élève tous ensemble et nos enfants ils sont trop mignons et ils jouent tous ensemble et tout. Oh, j'adorerais vraiment.
Les jeunes femmes d'aujourd'hui ou les jeunes hommes qui veulent vivre une vie sans enfants, je crois, sont mieux acceptés. On a cessé d'assimiler la féminité à la maternité et la maternité à l'indice d'une vie réussie pour une femme, par exemple. Donc, y a des changements, cette fois, qui concernent non pas seulement un âge de la vie, mais une génération qui va grandir et vieillir avec des modes de vie différents de celles qui l'ont précédée.
Bon, bah, c'est l'heure de goûter, non ? Enfin. Depuis quand vous vivez ici ?
Ça fait 6 ans. Hein.
Et avant, vous étiez à Créteil aussi ?
On était à Créteil aussi, à Créteil-les-Chars.
Et donc, vous les connaissez depuis combien de temps, là, les filles ?
Je les connais depuis la primaire. C'est ça, non ?
Ouais.
Et Sarah, ça a commencé au collège.
Ouais, au collège, moi.
C'est là-bas, toute la semaine. C'est un petit bébé.
C'est l'hiver, en fait.
Les filles viennent souvent, c'est ça, ici ?
On est souvent, oui.
Ah, elles sont tout le temps là, hein.
Un peu trop.
Là, c'est la deuxième maison.
C'est la maison du peuple, en fait.
C'est ça.
Ouais, c'est la maison du peuple. Comment, ton papa, il appelle comment, ici ?
La maison du peuple ?
Non, il appelle la MJC.
Ah oui, la MPT, la maison pour tous.
La maison pour tous.
C'est bien, moi j'aime bien être entourée, donc c'est la jeunesse et tout. Donc,
c'est notre tata, c'est notre deuxième maman.
C'est notre tata. Ah, mais je suis ta tata, je suis l'ami, je suis
la confidente. C'est tout. Non, c'est vrai que moi je sais que personnellement je dis toi tata, genre je dis vraiment.
Et moi quand tout c'est péripétie.
Voilà.
C'est vrai que des pans de notre vie. En tout cas, moi aussi, personnellement, elle connaît des pans de notre vie que ma mère ne connaît pas.
Mais si vous deviez donner des conseils aux filles en amour, ce serait quoi ?
À l'amour.
Parce que. Maman, voilà.
Elle a pas eu trop de chance en amour, ma petite maman d'amour. Hein.
Non, mais de se faire confiance et d'être patient. C'est important aussi. Et puis de ne pas seulement se jeter dans la gueule de l'eau comme ça, un coup de. Précipitamment, de ne pas se presser. De prendre leur temps. Pour l'instant, elles ont leurs études. Elles sont toutes brillantes. Donc moi, je leur fais confiance sur ce côté-là. Leur premier amour, moi, je pense que ce sera leur emploi plus tard. Après le ça, oui.
Bien, boss.
Dis bien.
On est vraiment dans une maison de femmes ici, hein. Les hommes.
Et est-ce que quand c'est devenu une jeune fille, qu'elle a eu ses règles, qu'elle a commencé à rencontrer des garçons et tout, est-ce que c'est des choses dont vous avez parlé avec elle ou c'était vraiment tu te débrouilles, ma fille?
Non, le jour qu'elle a vu ses règles, j'ai dit oh là là.
Je me rappelle. Moi j'étais toute contente, j'ai dit maman, j'ai eu mes règles.
Parce que toutes mes copines ont eu les règles, moi j'ai pas mal. J'ai dit mais si ça peut attendre encore, ça n'a qu'à attendre.
Donc ouais, non, le 17 mars 2018.
Ah, c'était
tard, hein. 17, 2017.
Ouais. 2017. Ah,
j'étais en 5ème.
En 5ème, ouais.
En fait, on s'en fiche, enfin, on en parle. Voilà, on reste dans un cadre.
Parce qu'on parle de tout et de rien, en fait.
Oui, voilà, dans un cadre assez. Voilà, quand même. Mais sinon, règles, garçons, on peut en discuter. Mais après, encore une fois, il y a quand même une limite. Enfin, c'est ma maman, voilà, c'est pas ma copine. Voilà. Mais sinon, j'ai confiance. Enfin, si. Voilà, elle va quand même me faire de la prévention, mais voilà.
Alors, du coup, pour les cours d'initiation à la sexualité, moi, j'étais en collège lycée privé, donc zéro. Zéro, avec ma mère, le minimum.
Pourquoi tu dis, du coup, zéro, comme t'étais dans le privé ?
Parce que tu sentais que c'était pas le sujet, quoi. C'était pas le fond de commerce. On a eu des cours un peu d'éveil à la foi, des trucs comme ça, mais pas des cours d'éducation sexuelle.
Et comment t'as fait ton éducation sexuelle ?
Bah, ma mère m'en a parlé un petit peu, après t'as le médecin qui t'en parle, puis donc bah moi je me suis mis en couple jeune, donc t'as Sofiane et sa mère aussi lui a fait des cours d'éducation sexuelle, donc c'est vrai que au final ça va quoi. Max, viens mon bébé.
Alors à l'école, je pense que l'éducation sexuelle n'était pas forcément présente
dans le sens où on a parlé de la reproduction sexuelle en SVT, on a parlé de l'importance de se protéger en quatrième, une autre fois en troisième aussi, mais une fois dans l'année, et puis c'est tout. Enfin, utiliser des préservatifs, mais ça s'arrêtait là. Je sais pas si j'ai vraiment une éducation sexuelle, mais je pense que ça se jouerait sur ce qu'on voit à la télé. Parce que, enfin, je regarde souvent des séries ou des films en rapport avec l'amour ou autre. Et après, sinon, bah, y a les expériences aussi des copines qui, des fois, bah, racontent et on se base là-dessus, on va dire. Quand je repense à des séries, bah, c'est juste des séries dans lesquelles il y a eu des scènes où il y avait des relations sexuelles entre un homme et une femme, mais sans plus. Et du côté affectif, bah oui, parce que je lis beaucoup de romances et je regarde aussi beaucoup de romances. Et du coup, bah, c'était beaucoup sur des relations amoureuses. Enfin, quand tu tombes amoureuse, qu'est-ce que ça te fait, les sentiments que t'éprouves ou autre. Ça se basait beaucoup plus là-dessus et ça serait des séries bah, depuis ma tendre enfance finalement. Par exemple, quand j'avais 8 ans, j'avais une série qui s'appelait Violetta, où tu suivais une jeune fille qui un jour était amoureuse d'un jeune garçon et aussi amoureuse d'un autre garçon en même temps. Donc, tu avais un peu ce conflit amoureux et à un moment donné, c'était tu tombes, t'as le coup de foudre ou pas. Enfin, c'était des séries qui tournaient beaucoup plus autour de ça.
Aux auditeurs qui ont connu de plein fouet les années sida, ouais. Est-ce que toi ça te fait peur les maladies?
Oui, ça me fait extrêmement peur les MST. Pour moi, ouais, c'est hyper important, enfin, de se protéger, de même juste, enfin, en vrai, question de respect pour ta partenaire. Enfin, après, je pense que des fois, t'es dans le feu de l'action et t'as pas envie, mais en vrai, il faut faire. Enfin, pour moi, c'est genre grave essentiel. Et en vrai, en plus, je me suis déjà retrouvée dans des situations vraiment pénibles et dures par rapport à ça. Ou de voir quelqu'un qui a ça dans mon entourage, ou moi, d'avoir des MST, tu vois, ça m'est déjà arrivé. C'est vraiment relou, en fait. Genre, pour moi, la sexualité, c'est pas censé être un truc relou, c'est censé être un truc où tu prends du plaisir et où tu respectes l'autre. Et du coup, enfin, pour moi, ça va de pair. Et de toute façon, c'est que de l'échange et de la communication sur ça. Il y a des gens qui aiment pas mettre des protections, et ben peut-être qu'ils peuvent trouver des gens qui aiment pas mettre des protections, mais genre faire ce choix-là ensemble. Moi, le but, ce n'est pas de faire l'amour et de mourir, vraiment pas. Je n'aimerais pas ça. Je prends pas la pilule pour la simple et bonne raison que j'ai de l'endométriose, et donc j'ai essayé beaucoup de pilules. On m'a beaucoup mis sous traitement de pilules en continu. J'ai essayé 3-4 pilules différentes pour essayer de réguler ce problème-là, qui apporte beaucoup de souffrance pendant les règles. Et en fait, j'ai arrêté il y a genre 1 an et demi parce que j'avais pas de partenaire à ce moment-là régulier, sexuellement. Et en fait, c'était horrible. Enfin, genre, j'avais des sautes d'humeur, j'avais pris beaucoup de poids. Je me sentais vraiment en dehors de mon corps et j'aimais pas trop. Pourtant, je suis pas, anti-pilule. Enfin, je pense qu'il y a chacun à son moyen de contraception, etc. Mais pour moi, je pense que c'était pas le meilleur. Et je suis très tête en l'air aussi, donc j'oubliais tout le temps ma pilule. Donc en fait, c'était un bordel monstre. Enfin, j'étais vraiment pas faite pour ce moyen de contraception. Et du coup, jusqu'à maintenant, je mets des protections. Enfin, je mets des capotes ou je mets d'autres types de protections quand j'ai pas des partenaires de sexe masculin, quoi. Mais j'aimerais bien passer à peut-être un stérilet ou un truc un peu fiable sur du très très long terme et tout, juste par acquis de conscience pour genre pas tomber enceinte éventuellement. J'aimerais bien.
Oh mon dieu, on est sans tabou. Donc en fait, je devais aller chez le gynécologue, mm-hmm. Et en fait, j'étais mineure, ce qui fait que je devais être avec ma maman. Donc je devais aller, donc j'étais partie consulter avec ma maman et tout, et j'avais 17 ans. Il me semble que je crois que c'est ma mère qui voulait à tout prix être là pour ma première consultation. Je sais plus. Mais quoi qu'il arrive, j'étais avec ma maman devant le gynécologue. Donc là, elle dit, ouais, moi, je veux assister, etc., etc. Donc bon. Moi, j'ai dit, ok, tout ça. Et là, elle pose des questions, machin et tout. Ouais, est-ce que vous êtes vierge? Et là, je commence à pleurer parce que j'avais ma mère à côté. Et genre, j'ai pas répondu.
Et le prof, le gynéco, il a très vite compris, il a dit non mais c'est pas grave et tout. Et j'étais gênée parce que je voulais pas dire à ma maman quoi. Et en sortant, on parle pas. Et elle me dit en fait je pensais juste que vous alliez attendre le mariage parce que lui, il me disait non on va attendre le mariage, tout ça et tout. Mais en fait, elle m'a dit mais t'as raison ma fille, profite, non, t'es jeune, tu vois, enfin voilà. Donc en fait, ma mère elle est assez ouverte mais juste, elle pensait juste pas qu'on l'avait fait. Je pense qu'elle voulait juste pas savoir qu'on le faisait sous son toit, mais c'est tout.
J'ai la chance d'avoir une mère qui m'a beaucoup éduqué sur toutes ces questions-là, sur la sexualité, sur comment on appréhendait le féminisme, sur les combats égalitaires, etc., en toutes sortes, mais beaucoup sur le côté féministe. Ma mère m'a beaucoup fait réfléchir et m'a beaucoup mis devant des reportages, etc. Donc j'ai une vraie, pas culture, mais une éducation au sujet. Et moi, dans ma technique de rapprochement avec les filles, si je peux dire ça, parce que j'aime pas trop le terme, mais moi, j'ai jamais été un bourrin. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de... Souvent, ça a échoué avec des filles, parce qu'à force de discuter, d'essayer de comprendre, je finissais par devenir leur ami, en fait. Donc, il y avait pas le lien amoureux. Moi, je suis pas un expert là-dedans. Il y a des plus experts que moi dans le groupe. C'est peu dire, mais... sur le côté éducation sexuelle, par exemple, j'en sais rien. C'est plus ma mère, parce que souvent, c'est des choses qu'on parle avec sa mère plus qu'avec son père. Et d'ailleurs, j'avais eu le livre de Titeuf, qui est là, d'ailleurs, dans ma chambre, le guide du zizi sexuel, que je pense qu'on a tous eu quand on était petits. En tout cas, ici, mes potes, ils l'ont eu aussi. Et ça a aidé à casser des portes, en fait. Installé
au parc. C'est le cirque Zavata qui est en tournée à Rueil Malmaison.
Zavata est à Rueil.
Il est à Rueil, le cirque Zavata.
Rueil Malmaison,
voilà. 92-500.
Au parc des bords de
Seine. D'ailleurs, le cirque Zavata, on donne pas de soutien parce qu'ils ont des animaux. Hein.
Ah. Il est pas au parc.
On faisait un tennis, il était derrière nous. On arrive avec Massimo et on voit des chameaux. Et là, quand je me dis j'ai des chameaux à Rueil Malmaison, c'est que ça va pas du tout.
Ah, il faut voir le cirque du soleil, il n'y a pas d'animaux.
Dans les sociétés humaines, il existe une règle du jeu sexuel. Le mariage distingué entre la sexualité permise, la sexualité en mariage et la sexualité interdite, la sexualité hors mariage. Mais il faut le savoir, cette division n'était pas organisée de la même façon pour les hommes et les femmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'égalité des sexes et avec le démariage ? Eh bien, c'est évidemment que le mariage n'a plus pu être cet opérateur différence permis interdit. Et qu'est-ce qui a remplacé le mariage ? Eh bien, c'est le consentement. Aujourd'hui, vraiment le consentement à l'acte sexuel est ce qui, pour nous, fait la différence entre un rapport sexuel permis, accepté par la société, s'il est consenti. Donc, on se moquera de savoir si c'était dans le mariage ou pas. Et un rapport sexuel refusé, critiqué, évidemment puni par la société, c'est tous les rapports sexuels qui ne sont pas consentis. Donc, on est passé vraiment à l'ère d'une révolution du consentement, je dirais. Et donc, ça n'est qu'en 1990, donc juste avant la naissance de cette nouvelle génération, qu'on a reconnu la possibilité d'un viol conjugal.
Nom Dominique Pellicot, âge 72 ans, profession retraitée. Les faits. Instigateur d'un réseau tentaculaire de violences sexuelles impliquant l'usage de soumissions chimiques. A perpétré des viols et orchestré le viol de son épouse, Gisèle Pellicot, par des inconnus recrutés en ligne, et ce, à plus d'une centaine de reprises. À ses côtés, 50 co-accusés sont également impliqués. Le verdict ? La cour criminelle condamne Dominique Pellicot à la peine maximale de 20 ans de prison. Il est reconnu coupable d'avoir violé, sédaté, et livrait son épouse à des dizaines d'hommes en la filmant pendant 10 ans. Affaire des viols de Mazan, le 19 décembre 2024.
J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle.
Gisèle Pellicot.
Ces nouvelles générations, elles sont face à une nouvelle donne en matière de sexualité. Il faut une nouvelle règle du jeu. Et là, elles s'inventent sous nos yeux, dans les collèges, je pense, dans les lycées, dans les facs, dans les bureaux. cette nouvelle génération essaye de réinventer, alors d'abord de la conscience des crimes, des délits, mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est une génération qui essaye d'inventer sa nouvelle civilité sexuelle à elle. Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être la drague ? Qu'est-ce que ça peut être la séduction ? Qu'est-ce que ça peut être la sexualité dans un monde qui veut, ou justement qui a fait du respect de la personne de l'autre, en particulier de la femme, quand même une de ses valeurs cardinales.
Avec les mœurs qui changent, notamment avec les questions de féminisme, les questions de consentement, est-ce que ça, vous en parlez ?
Oui, en soi, des conseils, ouais, déjà, les conseils, on se les donne, ça oui.
En fait, nous, il faut dire, on n'est pas des bourrins. Enfin, au collège ou au lycée, on était les mecs, nous, on n'intéressait pas les filles. Enfin, en tout cas, pour ma tête. Et je pense que pour le groupe,
au collège, on était finito.
Ouais, des fois, quand on parle, on est un peu chauvin, on dit ah ouais, elle, vas-y quoi, tu vois.
t'as oublié des mots.
Ouais, t'as oublié.
Ah, elle veut. Ah, elle veut, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, mais comme un peu tout le monde. Mais on n'a jamais franchi la ligne rouge.
Honnêtement, on a pas. Y a
être
pas trop
dans le manque enfin, de dans le manque de respect pur et dur, mais ouais, méchant, non. dans le sexisme volontaire ou même dans des histoires plus graves, type, je sais pas moi.
Parce que c'est pas nous.
Ouais, parce que ouais.
Parce qu'on a une éducation tout court.
Et parce que nous, on s'était fixé il y a longtemps une limite, parce que je ne veux pas donner de nom et tout, mais il y a des gens qui sont dans notre cercle, pas des gens qu'on connaît, mais à qui on a déjà vu et fréquenté, où on a appris des histoires sur eux, où il y a eu, je sais pas, viol ou machin.
Ouais, plus attouchement en vrai, mais je sais pas.
Ouais, attouchement.
Bref.
Et ça, on s'était dit le jour où ça nous arrive, mais t'es tout seul, mon gars. Il n'y a plus de... on ne soutiendra pas, frère.
Encore heureux, on n'a jamais franchi.
Ouais, mais on dit encore heureux, mais si on nous pose la question, c'est que...
Faut appeler un chat, frère. C'est... À un moment, il y a des mecs qui ont fait des trucs.
Un chien, un chat,
ce que tu veux, mais... Mais il y a un moment, il y a des mecs qui ont fait des trucs, c'est une dinguerie. Même juste l'histoire, là, actuellement, de l'histoire Mazan, enfin, l'affaire Mazan, c'est une dinguerie quand tu y penses. C'est ta propre femme, enfin, je sais pas, il faut avoir un sacré problème mental pour faire des trucs comme ça.
Heureusement qu'il y a eu Balance ton porc et MeToo, parce que. Et heureusement qu'il y a eu l'affaire Weinstein qui a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière, parce que ça a permis de libérer la parole des femmes comme jamais auparavant.
C'est rien, c'est pas du tout. T'as l'impression que t'as fait. On dit ouais, ça met un coup de pied dans la fourmilière, mais y a rien, quasiment rien fait par rapport à ce qu'il y a, quoi.
Bah, malheureusement. Mais il faut bien qu'il y ait un début.
Là, ce qu'on a vu récemment, il y avait. C'était quoi le hashtag tous les hommes ou je sais pas quoi, sur Twitter, qui disait all men.
Ouais. Ouais.
En gros, moi j'en parlais avec des gens, ils disaient ouais, les féministes elles disent all men alors que moi je suis pas un violeur. Moi je leur disais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Tu prends le mouvement all men, c'est un homme, qu'importe sa classe sociale, qu'importe son portefeuille, qu'importe d'où il vient, il peut y avoir des violeurs partout.
Et puis,
pardon, il y a aussi un Roland là qui commence un peu à m'énerver depuis quelques temps. Depuis l'affaire Neymar, où là c'est l'inverse. Où oui. C'est des filles qui se sont retrouvées avec un joueur et qui ont prétexté un viol pour gagner des sous sur sur le procès ou etc. Et du coup c'est revenu en mode ah ouais maintenant elles veulent toutes mentir pour profiter de l'argent d'une star qui lui donnera des dédommagements. Mais bref, faut toujours croire les victimes. C'est plus important.
Bah je pense en vrai il y a des deux hein.
La quantité de personnes qui portent plainte pour viol alors que c'est faux, c'est rien comparé à la vraie quantité de viol.
Et c'est surtout rien comparé à celle qui ose pas y aller.
Et qui ose pas y aller.
Ouais.
Ça
c'est encore
la pression que t'as derrière.
Ouais.
Quand tu vas au commissariat, la pression que t'as derrière.
Mais ça, on est tous d'accord sur ça. Il faut ouvrir sa bouche et il faut dire. Mais il y a un moment, il y a des traumatismes et il y a des choses qui font que parfois, t'arrives pas à dire ce qui se passe. T'arrives pas à dire ce qui se passe. T'arrives pas à sortir, à extérioriser.
Des psychologues, c'est important.
T'as besoin de changer de camp.
C'est pas tout le monde qui va se dire ouais je vais aller chez un psy expliquer tous mes problèmes.
C'est pour ça que la femme, la pédico, elle est forte, parce que son but c'est de faire changer la honte de camp.
Moi j'aime bien. En plus c'est West Af.
Il dit quoi dedans là? Il dit quoi?
Mais...
Genou, tata.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle dit,
disons? Ouais, bah elle parle de la femme.
Mais du quoi?
De tout ce que les femmes subissent, tout, tout ça. Les femmes sont braves, tout ça. Yanniki Wasawaditi, elle, fils à Bouyouma, en Sabougani. Yannicka Gewaditi, Bali, Olola Mosolevé. Inna le ina, ina kosa koduna, ina koduna.
J'étais plus petite, hein. J'étais au lycée. Et donc, je venais de connaître vraiment le concept du féminisme. Enfin, je pense qu'on l'était tous, mais voilà, on est tous égalité entre les hommes et les femmes. Mais j'avais pas mis de mots dessus. Et c'est vraiment arrivé fin troisième, début seconde, que j'ai vraiment commencé à comprendre ce que c'était que le féminisme. Donc, c'est-à-dire que j'ai créé une page Instagram qui s'appelait Insoumise. Voilà. Dans laquelle je partageais des petits posts et tout. Enfin, j'étais vraiment passionnée. Et puis moi, je suis vraiment une fille de la passion. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, je le fais vraiment avec passion. Et donc, moi, j'étais là tout le temps à ma mère. Oui, le féminisme. Et quand il y avait des hommes qui venaient à la maison, souvent, c'était des combats de coq. Hein. Vraiment, je me suis disputée avec des hommes. Et puis moi, je suis quelqu'un... Enfin, je suis pas dogmatique, mais quand je pense quelque chose et que pour moi je véhicule quand même un bon message et mes idées, bah, je reste sur mes positions et puis j'essaie de te faire comprendre, mais si t'arrives pas à comprendre, bah, tant pis, mais voilà, mes débats ils étaient souvent très très. C'est parti en. Voilà. Un grand débat et ça finit en dispute. Et moi, j'expliquais à ma maman, mais il disait des choses, c'était sexiste. Et moi, je comprenais pas. Enfin, j'essayais de lui faire comprendre qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être dites et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut être féministe parce que nous sommes des femmes, en fait.
Merci à Aïna, Sarah, Mariam, Safia, Ilyes, Léo, Massimo, Mathis, Andrea, Loua, Elisa, Agathe, Sofiane, Lila, Audric, Maëva, Loana et Louve. Et le premier bébé de l'an 2000, Nicolas. Merci à Irène Théry, sociologue. Merci à Judith Meyer, enseignante en sciences de l'information et de la communication à l'Université Sorbonne Paris-Nord, ainsi qu'à Karina Bellassen, directrice de l'espace Georges Turin d'Arc la Bataille. Lecture, Daniel Königsberg. Prise de son, Hélène Langlois, Laurent César, Stéphane Foulon, Hervé Dubreuil. Mixage, Manon Houssin. Archivina, Delphine André. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurenton. Les enfants du nouveau millénaire, deuxième épisode, Inventer l'amour. Un documentaire de Léa Capuano, réalisé par Rafik Zenine. Nariko, Baba de Godona Nariko, Mama Masira de Nadina, Mamule Kiro de Baba de Nariko, Mama Masira de Nadina, Mamule Kiro de Mola de Nariko, Mama Masira de Nadina, Mosolu.